modération de la messagerie, une source de fierté.
Midi 10 à Paris, restez avec.
Midi 10 aussi à Bordeaux, merci beaucoup à RFI pour ce journal. Vous écoutez le Pas de Résistance sur la Clé des Ondes. On reprend tout doucement notre rendez-vous de la mi-journée sur le 90.10. Hier, vous avez peut-être entendu un raté puisque la table ronde enregistrée avec le Centre Social Bordeaux Nord et la Ludothèque Interlude sur le diagnostic territorial qui est mené par ces deux structures, eh bien cet enregistrement il s'est coupé au bout de 6 minutes précisément. On s'en excuse et on vous invite à écouter le podcast du plat de résistance à la date d'hier où vous retrouverez l'enregistrement complet. Et aujourd'hui, on va faire un tour du côté des postiers et de leurs syndicalistes réprimés. Un des leurs, Willy Delem, passait en commission de discipline ce mardi alors que la campagne pour les élections professionnelles commence tout juste à la poste. Avant ça, on commence par dire un mot de la journée 12 heures pour la Palestine, une journée qui va avoir lieu ce samedi au Rocher de Palmer à Senon, à l'initiative du collectif Éducation avec Gaza. Pour en parler, on est au téléphone avec Émilie Montalétan. Bonjour Émilie.
Bonjour.
Tu es professeure de lettres au lycée Élie-Faure de Lormont et membre de ce collectif Éducation avec Gaza. Peut-être tu peux nous rappeler d'abord ce que c'est ce collectif, Émilie ?
Oui, tout à fait. Donc, ce collectif, il s'est constitué au mois de janvier à l'appel du syndicat général des enseignants palestiniens qui appelait donc à la solidarité. Et donc, nous avons répondu à cet appel. Et donc, un de ses objectifs principaux, c'est de dénoncer la destruction méthodique et délibérée du système éducatif palestinien à Gaza plus particulièrement, mais aussi en Cisjordanie. Et donc, c'est ce qu'on appelle un éducide ou un scolasticide. Et donc, cette destruction, elle touche aussi bien les élèves et les enseignants qui font partie des victimes des bombardements en cours. Il y a plus, selon le ministère de l'Éducation palestinien, il y a plus de 10 000 élèves qui ont été tués et 15 000 blessés, plus de 650 étudiants, mais aussi plus de 500 personnels de l'éducation. Et cette destruction, elle passe aussi par la destruction des infrastructures. Il n'y a plus d'université debout à Gaza et l'ONG Éducation Cluster estime que plus de 92% des écoles sont partiellement ou totalement détruites. Voilà, donc c'est une éducation à l'arrêt. 620 000 élèves et 88 000 étudiants ont été privés de leur scolarité pendant une année entière. Et là, la rentrée scolaire en Palestine, elle avait lieu le lundi 9 septembre. Donc c'est une deuxième année consécutive qui prive ces élèves de leur droit à l'éducation. 39 000 lycéens et lycéennes n'ont pas pu passer leur bac l'année dernière, et donc ça se poursuit en cette nouvelle rentrée.
Et tu le disais, ça concerne Gaza, mais ça concerne aussi maintenant la Cisjordanie ?
Alors, ça concerne la Cisjordanie depuis le début du conflit, mais là, effectivement, ça s'est accéléré ces dernières semaines en Cisjordanie aussi, avec l'opération ironiquement nommée camp d'été, parce que nous, dans ce qu'on entend dans un camp d'été, c'est l'accueil des enfants voilà, pour leur proposer des activités. Et cette opération camp d'été, notamment sur le nord de la Cisjordanie, elle a attaqué les villes et les camps de réfugiés de Toubaz, de Toul Karem, de Jenin, mais aussi d'Al-Khalil. Donc effectivement, ça se dégrade de plus en plus aussi en Cisjordanie. L'université de Bir Zeit, mardi 3 septembre à 2h du matin, a subi une invasion du campus avec une agression d'un des gardes de l'université et une dégradation des locaux du conseil étudiant. Donc on voit bien que l'éducation est une des cibles privilégiées de l'État israélien.
Alors avec le collectif Éducation avec Gaza, vous aviez déjà organisé, je crois, un événement au printemps dernier. C'est quoi l'objectif là de cette nouvelle journée 12 heures pour la Palestine ce samedi au Rocher de Palmer, Émilie ?
Donc effectivement, on avait organisé plusieurs événements dans le but d'informer et de dénoncer cet éducide dans lesquels on donnait la parole à nos collègues de Palestine. On avait notamment reçu des collègues de l'Institut français de Gaza. Là, notre objectif, c'est de dénoncer la destruction de la culture sous toutes ses formes. Parce qu'effectivement, à la fois les lieux de savoir, hein, c'est-à-dire les bibliothèques, les librairies, les musées, les archives, sont détruits à Gaza, mais aussi les monuments du patrimoine. L'ICOMOS, qui est le Conseil international de protection des monuments et des sites, dès le 2 février, décomptait 200 sites patrimoniaux détruits sur 350, c'est-à-dire 60% du patrimoine historique, un patrimoine mondial. Mais il y a aussi la culture actuelle qui est attaquée, les maisons d'édition sont détruites, les galeries d'art, hein, comme la galerie Eltika. Donc nous, on veut mettre à l'honneur cette culture palestinienne pour dénoncer la destruction en cours et aussi pour, je dirais, réhumaniser les Palestiniens parce que les priver de leur culture, c'est aussi nier leur humanité. Et on voit que cette campagne génocidaire israélienne, elle s'accompagne de propos qui visent à déshumaniser les Palestiniens, hein, puisqu'il y a plusieurs ministres israéliens qui ont utilisé la métaphore des animaux humains, notamment Yoav Gallant, le ministre de la Défense. C'est celui contre qui, entre autres, le procureur de la Cour pénale internationale a requis un mandat d'arrêt le 20 mai, qui avait déclaré dès le 10 octobre « Nous combattons des animaux humains ». Donc, organiser cette journée autour de la culture palestinienne, ben, c'est aussi lutter contre cette déshumanisation.
Alors, rapidement, le programme pour ce samedi, ça commence à 10h30 le matin avec des ateliers, trois ateliers dont, il me semble, deux sont déjà complets. Il en reste un, donc c'est sur inscription, il en reste un sur un atelier de danse, je crois. Émilie ?
Oui, donc tout à fait, ça va se dérouler toute la journée. Nous remercions le Rocher de Palmer de nous accueillir donc dès 10h30 du matin. Donc effectivement, les ateliers étaient gratuits, sur réservation. L'atelier broderie et l'atelier calligraphie sont effectivement complets, mais il reste de la place pour l'atelier de dabké, de danse. Et il y aura aussi dans le Rocher de Palmer des expositions, donc de photos de la Nakba, avant et après la Nakba, mais aussi des expositions de peintres palestiniens et de témoignages d'enseignants et d'étudiants que nous avons recueillis. À midi, on laissera la place aux traditions culinaires palestiniennes, donc il y aura un repas palestinien partagé, donc qui lui sera payant, mais on peut payer sur place en espèces ou par carte bancaire. L'après-midi, il y aura une projection de film pour donc mettre à l'honneur le cinéma palestinien. C'est un film de Firas Khoury qui s'appelle Alam, le drapeau, et qui présentera aussi des Palestiniens dont on parle peu, mais qui sont ce qu'on appelle les Arabes palestiniens, c'est-à-dire les Palestiniens qui résident en Israël. Et ensuite, nous accueillerons deux écrivains, Jadilal, qui est un romancier franco-palestinien, et Anna Saleli, qui est un poète palestinien, donc pour mettre à l'honneur la littérature. Et on parlera aussi avec eux du patrimoine. Et puis, on finira avec un grand spectacle qui peut être réservé sur Elo Asso, où il y aura donc de la musique, du chant, de la poésie et de la danse, avec des artistes palestiniens comme Ahmad Dari ou Nahouras Ibrahim qui seront présents, et une troupe de dabké qui vient de Paris. Voilà.
Eh bien, très bien, merci beaucoup Émilie. Donc, pour retrouver toutes ces infos, on peut aller facilement sur le site d'Hémosphère Gironde. Il y a un lien à la date de samedi vers notamment cette page Hello Asso où on peut réserver tout cela. Merci beaucoup Émilie. On rappelle donc c'est 12h pour la Palestine ce samedi au Rocher de Palmer à partir de 10h30 et toute la journée. Merci beaucoup Émilie.
Je vous remercie. Bonne journée.
Et je rappelle que tu es prof de lettres au lycée Elifor à Lormont et membre du collectif Éducation avec Gaza. Et on termine avec quelques notes de Ziad Ben Youssef et ce titre Janoub. Et Et à 12h presque 20 sur la clé des ondes, on enchaîne avec notre dossier du jour. Mardi dernier, un rassemblement avait lieu devant le siège de la Poste à Mériadec. Rassemblement en soutien à Willy Delem, postier membre du syndicat Sud PTT, poursuivi par sa direction pour avoir trop bien fait son travail de syndicaliste. Il était convoqué devant la commission de discipline ce jour-là. On écoute tout de suite ce qui s'est dit à ce rassemblement.
La réalité, c'est que quand on ouvre sa gueule à la Poste, on est menacé de licenciement.
On n'est pas dupe, Willy, s'il est sanctionné, c'est une sorte de syndicalisme qui est sanctionné, comme l'a dit Julien. Hein. C'est le syndicalisme de terrain, c'est le syndicalisme qui va sur le lieu de travail. C'est le syndicalisme qui organise les collègues et qui les incite à résister, à s'organiser pour lutter.
Ce que veut la Poste, hein, c'est des partenaires sociaux, des syndicats pots de fleurs, des plantes vertes. Ça, elle est très friande de ça. Du dialogue social, on regarde des slides sur le mur.
La répression syndicale, c'est dans toutes les grosses entreprises. Et à travers la Poste, qui est un des plus gros employeurs, c'est tout le patronat qui s'attaque à une forme de syndicalisme. Le syndicalisme de terrain, comme je dirais. Mais ce qu'il faut que sache la Poste, c'est que quoi qu'il arrive aujourd'hui, quoi qu'il arrive après, avec d'autres sanctions qui tomberont sûrement, on continuera à aller sur les lieux de travail, on continuera à écouter les collègues, on continuera à les informer, on continuera à les organiser, à écouter leurs revendications et à faire en sorte qu'ils puissent résister la tête haute. Merci encore.
Je m'appelle Olivier Rosé, je suis collecteur à La Poste depuis 1995 et je suis également représentant syndical de Sud PTT dans le Var après pas mal d'années à Paris.
Alors peut-être d'abord, comment c'est toi, quelles actions tu mènes en tant que représentant syndical et quelle répression toi tu as pu rencontrer de ton côté dans le Var ?
Alors plutôt je vais parler de Paris puisque sur Paris il y a eu une vague de répression très forte début des années 2010. Qui concernait principalement les militants syndicaux Sud ou CGT, et c'était souvent Sud, qui prenaient la parole dans les centres auprès de leurs collègues, et qui leur expliquaient les mauvais coups de la direction et qui encourageaient les collègues à résister. Moi, à titre personnel, donc, je suis sur un feuilleton juridique, administratif, qui dure depuis 2009, et j'en suis à ma 9e année de mise à pied prononcée à mon encontre. C'est-à-dire que là, je suis actuellement mise à pied depuis l'année dernière jusqu'à septembre de l'année prochaine. Voilà.
Pour
des prises de parole, pour ce que la boîte appelle des intrusions dans les centres. C'est-à-dire qu'on a un droit syndical qui nous permet de visiter les centres, d'aller voir les collègues. Mais la Poste nous met 15 000 embûches de délais, de registres de visiteurs à émarger, des choses comme ça. Qui, pour elle en fait des griefs, qui nous expose à sanctions. Alors, on a énormément de camarades, comme Willy, que je vais défendre tout à l'heure, voilà, Willy Delem, de Sud PTT. On lui reproche exactement les mêmes choses que moi, des prises de parole, des intrusions dans les sites postaux. Et là, nationalement, on est sur une demi-douzaine environ de camarades Sud ou CGT inquiétés de procédures disciplinaires pour exactement ces griefs de prise de parole. On a eu Sam dans Pyrénées-Orientales, dans le 66, et là, il y a des menaces sur deux camarades, un du 66, Ludovic, et un autre sur David, dans le Loiret, voilà. Toujours pour des prises de parole. En réalité, la Poste, ce qu'elle aime bien, c'est des syndicats qui regardent, qui vont dans les réunions, qui disent, qui posent pas trop de questions, qui signent des accords, et qui surtout ne vont pas voir les collègues pour les encourager à refuser l'inacceptable, les suppressions d'emplois, le rallongement des tournées, la précarisation de l'emploi, puisqu'on est à 30-40% de précaires, intérimaires, contrats gel, tout précariat confondu, voilà. Et donc, ce qu'ils veulent, c'est des syndicats, des pots de fleurs, des plantes vertes en réunion. D'ailleurs, c'est ce qu'on voit le plus souvent, c'est mes camarades syndicalistes sont souvent des plantes vertes dans les réunions, hélas.
Que dit le droit du travail sur ces questions-là, le droit syndical ? Est-ce que c'est autorisé factuellement d'aller sur les sites et d'aller s'adresser aux collègues ? Ou est-ce qu'il y a un trou ? Est-ce que la Poste est dans son bon droit de contester ces pratiques syndicales ?
Il y a un vide absolu sur la prise de parole. On a par contre la plupart des inspections du travail qui se prononcent sur le sujet, refusent les licenciements en disant que le syndicaliste a le droit de prendre la parole. Ensuite, c'est une bataille devant les tribunaux. Alors on a deux tendances, une tendance du juge judiciaire, une tendance du juge administratif qui est beaucoup plus restrictif puisque la magistrature administrative n'est pas la plus progressiste, si je devais me prononcer ainsi. Voilà. Et on a récemment, c'est-à-dire sur une demande de licenciement de La Poste d'un représentant sud dans les Yvelines, sur des prises de parole, le ministre du Travail, Olivier Dussopt, en février 2023, a considéré que les prises de parole étaient une forme acceptable d'action. Voilà. Donc nous, on utilise beaucoup cette décision de refus de licenciement d'Olivier Dussopt, qui n'était pas un ami des travailleurs, nous le précisons également.
Et donc toi, ta situation, tu dis ça fait 9 ans, 9e année
de sanctions prononcées
à mon encontre. De sanctions, de mise à pied. Toi, tu as contesté ces décisions. Comment ça se fait que tu en es toujours là et qu'il y a, voilà, ça veut dire 9 ans, tu es toujours salarié ou fonctionnaire de La Poste, mais tu n'as pas de salaire. Tu es dans cet entre-deux-là complètement absurde.
J'ai gagné souvent devant les tribunaux administratifs. Mais il y a toujours, c'est une bataille juridique. Le juge administratif considère la plupart du temps que la prise de parole n'est pas grave, mais que le fonctionnaire a fauté. Voilà. Et donc là, feuilleton administratif, TA, Cour administrative d'appel, Conseil d'État. Le Conseil d'État a dit, de toute façon, il y a faute. Voilà. On ne va pas regarder le niveau de la faute. La Poste a eu raison de sanctionner. Donc voilà, avoiner ce syndicaliste. Et donc La Poste m'a réavoiné sur des décisions qui avaient été précédemment annulées. Donc j'ai repris et j'ai récopé derrière. Voilà. C'est un feuilleton. Voilà, c'est un feuilleton.
Et donc tu disais, vous êtes un certain nombre comme ça à avoir ce type de sanctions-là dessus de PTT au niveau national à La Poste.
Ben là, par ici, il y a Julien Collat qui avait eu une sanction, je ne sais plus exactement le niveau de la mise à pied, mais enfin, il a vu de la mise à pied pour une prise de parole, voilà. Donc les prud'hommes ont considéré que une prise de parole, c'était pas gênant pendant le service. La Poste a allégué de perturbation du service qui n'était due qu'au fait du départ en grève de collègues. Donc forcément, la production s'était arrêtée puisque des collègues avaient fait grève à l'issue de la prise de parole de Julien. Sa sanction avait été annulée. Je sais que Willy également, il avait eu une sanction toujours pour les mêmes griefs, il y a 2 ou 3 ans, je crois, qui avait également été annulée au prud'homme. Et la magistrature judiciaire, généralement, on réussit à gagner. En fait, les sanctions sont annulées. Et généralement, le juge judiciaire, qu'il soit prud'homal ou de cour d'appel, juge que la prise de parole, il n'y a pas mort d'homme et qu'en fait, le syndicaliste peut parler pendant le service. On est sur un vide juridique où justement, nous, ce qu'on considère, c'est qu'en fait, pour encourager les collègues à lutter, il faut les rassembler. C'est ce que La Poste refuse. Elle fait tout pour séparer, elle fait tout pour individualiser. Et nous, ce qu'on essaye de faire, c'est la prise de parole. Ça n'est pas qu'une prise de parole, c'est tenter de rassembler les collègues. Qu'un collègue ne soit plus individualisé tout seul sur sa position de travail, à râler sur ses conditions de travail, j'en ai marre tout ça, mais que c'est quand on se rassemble tous qu'on réalise qu'en fait on est tous dans la même galère et que tous ces mécontentements individuels se transforment en colère collective et en énergie et potentiellement en grève. C'est bien pour ça que La Poste sanctionne ces fameuses prises de parole.
Ces prises de parole, là, c'est une pratique traditionnelle, héritée, j'ai envie de dire, de Sud PTT. Enfin, je sais pas, c'est des choses qui rappellent un peu des films, un truc historique où voilà, on voit des tribuns qui vont prendre la parole sur les lieux de travail, etc. C'est quelque chose que vous essayez de cultiver et de faire perdurer à Sud PTT.
Je pense que les PTT étaient un des anciens secteurs les plus combatifs du pays, il y a longtemps, avec une tradition de combativité ouvrière qui était très forte. Exactement ce que tu viens de dire, des tribuns qui montaient sur la table, qui haranguaient les collègues. « Allez les collègues, il y a un problème, on se rassemble tous. » Voilà. On votait une délégation chez le chef de centre. Si le chef de centre ne répondait pas, ça risquait potentiellement de tourner en débrayage. C'est comme ça que pendant des années, on a réussi à conserver des conditions de travail à peu près correctes. On est en train de perdre ça, puisque de plus en plus de répression. Enfin là, j'ai fait un petit déroulé. Là, on a dans les Bouches-du-Rhône, la semaine prochaine, le secrétaire départemental, l'équivalent de Willy, qui passe en conseil de discipline pour ces faits-là, pour ces griefs-là. Et Donc on est en train de reculer, mais enfin on résiste. Voilà. Là, ce qui est très bien, c'est qu'aujourd'hui ce rassemblement est unitaire, appelé par Sud et la CGT. Je crois qu'il y a des préavis locaux, il y a des grévistes. Voilà. Nous, au niveau de la fédération Sud PTT, puisque je suis également à la fédération, on a déposé un préavis de grève nationale, non pas parce qu'on sait qu'il va y avoir 10% de grévistes, mais pour bien affirmer auprès de la boîte, arrêtez de nous taper dessus, lâchez-nous la grappe, on a le droit de militer, on a le droit de parler. Les syndicats, on ne sera jamais des plantes vertes, on ne sera jamais vos pots de fleurs. Voilà.
Et peut-être un dernier mot, c'est quoi la réception de ces pratiques-là, de ces prises de parole dans les boîtes? Est-ce que vous voyez une évolution au fil du temps? Est-ce que, comme tu disais, ça fait du bien aux collègues de se retrouver, de former collectif, de pouvoir échanger, d'avoir ces temps-là ensemble? Est-ce qu'il y en a qui, peut-être, de plus en plus écoutent moins, se sentent moins pris dans ce truc-là collectif? Comment tu vois l'évolution?
Moi, je suis chef de centre, je vois un syndicaliste qui commence à haranguer, à rassembler les collègues, je menace tout le monde un par un de sanctions. Voilà, c'est ce que font les tauliers. Ça marche, voilà. Hélas, voilà. Alors des fois, le collectif est suffisamment fort pour résister. Et là, c'est les rapports de force qui s'inversent. Quand on se rassemble, quand on fait une assemblée générale, le terme assemblée générale, ça semble quelque chose d'assez anodin. En réalité, c'est déjà l'inversion du pouvoir sur un site de travail. Quand les collègues se réunissent, discutent de leurs conditions de travail, commence à discuter de stratégies pour répondre aux mauvais coups de la direction, là on commence à inverser le pouvoir et là c'est les directions, voilà, de la Poste ou des autres boîtes qui commencent à baliser.
Très bien, merci beaucoup. Il y a d'autres choses à annoncer, choses importantes qu'on n'aurait pas dites ça va pour toi?
On a interpellé la Fédération Sud PTT, a interpellé tout le groupe NFP, Nouveau Front Populaire de l'Assemblée Nationale. On a eu des retours de députés, principalement FI pour l'instant, qui sont sensibles à la question. Nous, notre idée, ça serait un petit peu d'essayer, puisqu'en fait, en réalité, tout ce qu'on voit, c'est que des disciplines, il y en a tout le temps depuis des années à la Poste, sur ces griefs-là, sur ces faits-là. On n'arrive pas encore à faire sortir ça publiquement. Généralement, c'est la presse locale qui s'en empare, qui en parle, tout ça. Mais ça ne fait évidemment, je pense que les médias mainstream en ont rien à secouer. D'ailleurs, je pense qu'ils sont même pour, voilà, qu'on se fasse latter la tête. Nous, ce qu'on cherche à faire, c'est justement essayer de médiatiser ça, de dire que le syndicalisme est tué à la Poste, voilà, que la boîte veut des pots de fleurs. Hein, je me répète, hein, mais je ne vois pas d'autres termes que pots de fleurs ou plantes vertes. Et que, voilà, donc nous, ce qu'on demande, c'est une loi d'amnistie et qu'il y ait une loi qui pose les principes d'un droit syndical qui soit favorable aux militants syndicaux et aux travailleurs.
Peut-être un mot quand même sur les élections professionnelles là, qui ont lieu ces jours-ci, qui commencent à la Poste au niveau national avec le passage du CHCT-CT au CSE qui va induire une perte de délégation assez importante, qui va induire aussi tout un tas de nouvelles règles de fonctionnement des représentants du personnel. Est-ce que tu disais là, vous, ce que vous voulez, c'est avoir gagner des droits dans la loi avec que soit inscrit ce droit d'aller parler aux collègues sur le lieu de travail, etc. Est-ce que là, c'est pas l'inverse qui se passe avec la mise en place d'une usine à gaz qui va vous prendre du temps, vous faire perdre du temps de délégation et en fait qui chercherait à occuper les syndicalistes, à faire autre chose, à faire les plantes vertes, comme tu le disais tout à l'heure, et comment réagir face à cette situation?
Je dirais pour vos auditeurs, et je ne sais pas si vous-même vous étiez dans la rue en 2016 contre la loi travail c'est dégueulasse. À l'époque, on le disait, on savait que c'était dégueulasse, que la suppression des CHSCT, des CT, ça allait être une saloperie. Aujourd'hui, on est en train de voir concrètement qu'est-ce qui va nous tomber dessus. Des délais de prévenance impératifs pour aller dans les centres. C'est-à-dire qu'on aura 48 heures de délai impératif pour aller sur un centre. C'est-à-dire que s'il y a un incident, on ne peut pas débarquer dans la matinée même. Voilà. Donc au niveau de la réactivité, on va être plombé. Et là, en plus, on s'exposera potentiellement à sanctions. Voilà. Et puis en fait, en gros, ce que fait la boîte avec le CSE, c'est qu'elle va faire... déjà, nous, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est des syndicalistes, des partenaires sociaux, pardon, qui sont très friands du dialogue social, c'est-à-dire de papoter de choses et d'autres. Jamais des questions essentielles liées à l'emploi, liées au précariat, liées à l'intérim. Voilà, ça, c'est des questions qui sont évitées en général par les partenaires sociaux. Mais des questions annexes sur les réorgs, voilà, des questions annexes sur les réorgs.
Et donc,
les réorganisations, c'est-à-dire, quand j'appelle réorg, je parle d'un plan de suppression d'emplois à l'échelle d'un établissement. Et donc, le CSE va renforcer ça, où justement, les syndicalistes seront de plus en plus dans ces instances. Par exemple, aujourd'hui, chaque établissement a un CHSCT. À partir de demain, par exemple, moi, je suis sur la PACA, il n'y aura plus qu'une instance pour tous les centres courriers de la PACA. C'est-à-dire que si je suis élu dans cette instance, je ne vois pas comment je pourrais suivre sérieusement des dossiers qui vont se dérouler sur un périmètre de la taille de la PACA. Plus le droit syndical qui va être réduit. Enfin bon, donc c'était bien ça le but de la loi travail, c'était pousser l'intégration encore des partenaires sociaux à la logique de gestion capitaliste et éliminer les opposants à la politique de casse sociale. Donc c'est le but du CSE. Ben on avait raison de se battre en 2016.
Et alors aujourd'hui, est-ce qu'il y a une stratégie à adopter maintenant que c'est fait, maintenant que c'est là? Comment continuer à faire du syndicalisme malgré ce détricotage du droit?
Eh bien, aller dans l'instance en se rendant compte que c'est une instance qui est là pour nous digérer, pour nous avaler, pour nous formater, pour, par exemple, les porteurs de mandat, les futurs délégués syndicaux, les futurs représentants de proximité auront un entretien de prise en main par leur manager, où on leur expliquera où ils doivent faire et à quel moment. Voilà. Ça va être détourné, ça va être dit, posté jour, tes réunions c'est quand, qu'on puisse planifier pour le service, tout ça. Mais la réalité, ça sera, on va bien nous expliquer ce qu'on doit faire, où est-ce qu'on doit pisser et à quel moment. Ça sera bien ça le but, voilà, c'est ce qu'on comprend. Donc on va essayer de résister contre toutes les embûches de la direction, et puis on va surtout au CSE, en pleine conscience que c'est une machine qui est là pour nous digérer, pour nous bouffer, nous digérer et nous transformer en plante verte. Voilà. Et il y aura plein de syndicats qui vont être ravis de faire, parce qu'en fait, on aura aussi les activités sociales et culturelles. Donc il y a plein de syndicats qui sont hyper friands de ça, qui vont se transformer en épiciers, qui vont vendre des voyagistes, qui vont vendre des clubs de sport, des machins. Nous, ce qu'on considère, c'est qu'il faut augmenter les salaires. Le but du syndicat, c'est de porter des revendications des collègues sur les conditions de travail, sur l'emploi, sur les salaires. C'est pas de se transformer en épicier.
Merci beaucoup Olivier Rosé, donc Sud PTT dans le Var et à la Fédération aussi Sud PTT au niveau national. Merci.
Exactement.
À toi.
Je voulais apporter déjà tout notre soutien de la CGT Énergie auprès de Willy, mon camarade. Et je tenais également à vous dire qu'encore dernièrement, on sait parfaitement ce qui se passe. Hein. Vous nous avez certainement suivis. Nous avons 400 militants et syndiqués CGT dans l'énergie qui sont menacés. Encore là, hier, il y a quelqu'un qui a été convoqué au commissariat dans le 77. Prochainement, nous en avons un du côté de Pau. La répression continue chez nous également. Ça suffit. Nous sommes réellement les défenseurs du personnel, des salariés. Et ils doivent nous entendre, peu importe nos modes d'action. Ils n'ont pas le choix. Et quand ils le comprendront, ils se tairont. Donc aujourd'hui, tout mon soutien pour Willy, nous sommes tous là pour lui et nous n'allons rien lâcher.
Alors, salut Johnny Perret.
Bonjour.
Toi, tu travailles à La Poste également, tu es membre du syndicat CGT, donc c'est la FAPT, la fédération à La Poste. La CGT qui appelle aussi à ce rassemblement là pour soutenir Willy aujourd'hui. Pourquoi la CGT appelle et pourquoi la CGT soutient ici Sud PTT?
Ben pour une raison très simple, c'est qu'on travaille en intersyndical sur les bureaux de poste et à travers Willy, c'est une forme de syndicalisme dans lequel on se retrouve qui est attaqué. C'est le syndicalisme de lutte, syndicalisme de contestation. Et c'est pour ça qu'on appelle à se mobiliser pour le soutenir, parce que le soutenir, c'est soutenir ce syndicalisme. Oui, il cible le syndicat Sud en particulier, parce qu'on le voit au niveau national. Alors, ceci dit, moi, je suis moi-même au prud'homme pour contester une sanction que j'ai prise pour les mêmes raisons.
Même chose, c'est ça?
Exactement. Pour des prises de parole et des visites de bureau. Ce qui nous reproche, c'est d'aller voir les collègues et de les informer et de discuter avec eux.
En quoi c'est important justement ça, d'aller voir les collègues? Enfin, c'est quelque chose qu'on voit moins aujourd'hui dans le syndicalisme, ou aussi du fait qu'il y a moins de gros centres avec plein de salariés au même endroit. En quoi c'est important pour vous de faire ça?
Les institutions représentatives font en sorte que le syndicalisme se professionnalise, et nous, ce qu'on demande, c'est à être sur le terrain auprès des collègues, et c'est hyper important pour pouvoir déjà écouter leurs revendications, pouvoir les aider à se mobiliser et à résister et à s'organiser.
Là, on entre dans une période électorale à La Poste avec les élections professionnelles, le passage du CHSCT, Comité Hygiène, Sécurité et Question de Travail, Comité Technique au CSE, Comité Social et Environnemental. Il y a beaucoup d'enjeux dans ces élections. Comment est-ce que vous, à la CGT, à la FAPT, vous les abordez?
Nous, ce qu'on veut, c'est continuer. Justement, c'est ces institutions qui mettent en place, qui font qu'ils veulent nous éloigner du terrain et nous professionnaliser. Nous, on veut continuer à être sur le terrain, et on continuera à être sur le terrain au plus près des salariés. Bon, on n'est pas dupes, hein. Là, ce qu'ils cherchent à faire, c'est éloigner Willy pendant la campagne. Et sûrement avec une mise à pied, et la campagne a commencé hier. La commission de discipline a lieu aujourd'hui. S'il prend un mois de mise à pied, il éloigne de la campagne. Et on n'est vraiment pas dupes.
Avec ces élections, il va y avoir une perte de beaucoup d'heures de délégation. Qu'est-ce que ça va changer pour vous et comment peut-être se réorganiser suite à ça pour continuer à faire le taf ?
On va revenir aux fondamentaux. Hein. La CGT, elle s'est créée comme ça. Hein. C'était sur le lieu de travail, être organisé au plus près du lieu de travail. On revient aux fondamentaux. Ce n'est pas un problème.
Merci beaucoup, Johnny.
Merci.
Gilbert du syndicat Sud au CHU de Bordeaux. Ce que vivent nos camarades de La Poste, nous le vivons pleinement aussi au CHU de Bordeaux. Plusieurs attaques sur les représentants du personnel du syndicat Sud encore cette année, juste avant l'été. J'ai moi-même été visé par une procédure disciplinaire en lien avec la mobilisation qu'on a réussi à mener quand même sur le 1er juillet et un préavis de grève. La direction a subitement terminé et retiré cette procédure disciplinaire. Le but était simplement de faire une attaque sur notre syndicat, comme ils ont fait sur même des militantes de notre syndicat, une collègue aide-soignante qui est suspendue depuis plusieurs mois pour des faits qui sont totalement imaginaires. Sa seule faute, c'est d'être syndiquée et engagée au syndicat Sud. Des collègues ambulanciers au SMUR de Bordeaux qui ont été déplacés pour des raisons totalement imaginaires sans avoir aucune pièce à leur charge dans leur dossier administratif. Leur seule faute, être syndiquée et engagée au syndicat Sud et de dénoncer des conditions de travail. Donc le but de notre direction, même au CHU de Bordeaux, c'est de faire peur à l'engagement syndical, d'éviter de venir nous remonter des conditions de travail qui sont pas acceptables, parce qu'on soigne aujourd'hui dans des conditions de sous-effectif nos patients, et derrière ça, c'est la maltraitance aux patients. Et aujourd'hui, c'est vraiment très très fort. Les gens n'osent plus, c'est tais-toi et bosse, et les gens n'osent plus même nous parler et nous faire remonter des alertes sur des services en disant « non, attention, ça va me retomber dessus ». Donc je pense que c'est important que tous nos syndicats de lutte, que toutes nos associations se réunissent pour dénoncer cette discrimination syndicale et qu'on puisse continuer dans toutes nos entreprises, dans tous nos établissements et à dénoncer les conditions de travail et l'inacceptable. Donc soutien pleinement à Willy et à tous les militants qui sont visés.
Alors je m'appelle Christophe Serra. Je suis facteur depuis pratiquement 20 ans. Enfin, j'ai été facteur depuis pratiquement 20 ans. Donc j'ai fait plusieurs bureaux. J'ai fait Saint-Médard, j'ai commencé à Saint-Médard-en-Jalles. Après je suis allé à Parampuire. Et puis j'ai fini à Codéran. Ça fait 15 ans que j'étais à Codéran. CDI, tout allait bien. Et puis ça se dégrade. Donc conditions de travail, le ressenti de comment on est traité par rapport à la hiérarchie. On demande de plus en plus, en n'ayant pas les moyens, hein, parce que avant, par exemple, un exemple tout bête, quand j'étais jeune, moi l'été, quand j'ai commencé, on était beaucoup de jeunes, et non, c'est terminé. Et non, c'est les facteurs qui sont là qui remplacent les gens qui ne sont pas là. Alors qu'avant, bah, on avait des jeunes qui venaient 3-4 par saison, quoi, l'été, et puis on les formait, et puis ils remplaçaient ceux qui n'étaient pas là, qui étaient en vacances. Mais ça, c'est terminé, on en a peut-être un, voire deux de temps en temps, et en plus, des fois, ils ne tiennent pas souvent. Très longtemps, voilà. Donc voilà, et puis les horaires qui sont, les horaires c'est compliqué, on va dire. Voilà, les horaires c'est compliqué. Moi j'ai été mis à pied, donc je suis passé en conseil de discipline il y a maintenant un mois et demi. Donc j'ai été licencié pour faute grave, selon eux, tout simplement parce que ça a commencé tout simplement avec les élections qu'il y a eu où on demandait de distribuer des pubs. Parce que ce n'est même pas des plis électoraux qu'on recevait dans les enveloppes comme qui existent depuis X années.
Oui, c'est pas les courriers officiels non, avec non. Les professions de foi de tout le monde.
Ça, ils l'ont fait, mais en plus de ça, il y a un parti politique, enfin, des partis politiques, qui ont payé en plus pour qu'on distribue les pubs. Ce que les gens reçoivent dans la boîte aux lettres normale, ou alors si tu vas au marché, qu'il y a un représentant. Enfin, voilà, ça, on leur a demandé de le distribuer.
On peut dire quel parti c'était ?
Alors, nous, ça a été droite, et à des endroits, c'était extrême droite, voilà. Sauf qu'en fait, on nous demandait de distribuer en plus du courrier. Mais en plus du courrier, il fallait vraiment les distribuer. Donc, on distribuait le courrier, ce qui était urgent. Voilà, donc tout ce qui n'était pas urgent, ça restait de côté.
Parce que vous n'avez pas le temps, en fait.
On n'a pas le temps, tout simplement. On n'a pas le temps. Surtout que c'était dans toutes les boîtes aux lettres qu'il fallait le mettre. Donc, c'est vu que moi, j'avais 3 ou 4 000 personnes, il fallait que j'en mette pour 3 000 ou 4 000 boîtes aux lettres. Voilà. Et moi, j'étais mis à pied tout simplement parce que les jours où on devait le distribuer, moi, j'étais en repos ce jour-là et je n'ai pas été remplacé parce qu'il n'y a pas de remplacement. Voilà. Donc, quand je suis revenu le lendemain, les élections étaient là, j'avais 2 journées de boulot et on m'a demandé de distribuer les élections en priorité. Voilà. Donc, j'ai refusé de le faire. En tout cas, de le refaire. Pour eux, ils ont mal compris, mais pour moi, c'était de le refaire ce jour-là. Je demandais qu'on me laisse un peu de temps, en fait, pour écouler le boulot qui était en retard et les faire. Et ça, ils n'ont pas voulu. C'était maintenant, maintenant, maintenant. Donc, j'ai été mise à pied en termes conservatoires. Donc, je devais rentrer chez moi. Et en fouillant dans mon casier, il y a un truc qui existe à la Poste, qui existe depuis la nuit des temps. Moi, depuis que je suis à la Poste, ça a toujours existé. C'est tout ce qui est carte postale. Et avis de réception des recommandés que les gens reçoivent en retour, quand c'était mal adressé, on gardait de côté. Moi, j'ai toujours fait ça. Et sauf qu'en fait, en fouillant, ils ont trouvé ça. Et ils ont considéré ça comme de la rétention de courrier. Voilà. Donc, j'ai été mis à pied à cause de ça. Voilà. Tout simplement.
Mis à pied et depuis licencié ?
Alors, j'ai été mis à pied à partir de juin. Mai, pardon. Mais ça a pris un certain temps pour que ça arrive le jour où je passe en conseil de discipline, tout simplement. Surtout que quand ça a été annoncé, on avait fait une grève à Bordeaux Codéran et la hiérarchie a bien stipulé dans le journal, alors je crois que c'était Sud-Ouest, je ne suis pas sûr, qui disait qu'il n'y avait pas de sanctions en cours pour les deux agents, donc Francky et moi-même. Alors qu'en fait, si, voilà, tout simplement. Et donc, je suis passé en conseil de discipline il y a maintenant un mois, à peu près. Et donc, j'ai bien été licencié avec 2 mois de préavis. Donc là, je suis encore pour l'instant en tant que salarié, mais je ne peux plus exercer mon travail depuis maintenant mai. Voilà. Donc, j'étais sur une tournée depuis 4 ans. Donc, les gens, je ne sais pas ce que mes collègues le disent à mes clients, mais les clients, je ne les vois plus, quoi. Donc, voilà.
Comment la Poste justifie ce degré de proportionnalité entre ce qui était reproché et le licenciement?
Il n'y a aucune proportionnalité. Tu peux très bien... J'ai des collègues qui sont faits mis à pied parce qu'ils ont claqué une porte trop fort. J'ai des collègues qui ont été mis à pied plusieurs mois pour avoir agressé des gens. Et moi, je suis mis à pied et ensuite licenciement pour avoir fait ce que j'ai expliqué. Il n'y a aucune proportionnalité.
Est-ce qu'on peut imaginer que c'est parce que cette distribution-là des plis de propagande électorale, ça représentait un chiffre d'affaires important pour la Poste à ce moment-là ?
C'est ça. Et surtout que nous, on ne touche rien dessus. C'est du boulot en plus qu'on doit faire, mais on ne touche rien. Avant, ça existait. Il y a 5, 6, 10 ans, ça existait. On recevait les plis électoraux qui étaient encartés et on touchait une prime dessus. Sauf que ça n'existe plus. Ils considèrent que pour eux, comme le courrier baisse, ça compense. Donc, on doit le distribuer comme du courrier normal. Voilà.
Toi, qu'est-ce que tu as décidé de faire ? Est-ce que tu vas aller au Prud'homme pour contester ce licenciement ?
Ça dure X années pour, au final, même pas être sûr que ça amène à quelque chose. Non, je ne veux plus rien avoir à faire avec la Poste. Alors que j'adorais mon boulot, hein, c'est très triste. Hein, moi, depuis que je suis tout petit, j'ai envie de faire ça. J'ai retrouvé dans mon bulletin, quand on est les stages de 5e, il y a bien marqué qu'est-ce que vous voulez faire étant plus grand. Et j'avais bien marqué je voulais être facteur. Moi, c'était quelque chose que j'adorais faire, être au contact des gens, être dehors. Certes, on râle beaucoup pour le temps, mais au final, bon, voilà. Et malheureusement, voilà. Ce qui surtout a été retenu dans mon licenciement et mise à pied, c'est le fait que je ne respecte pas la hiérarchie, c'est-à-dire que quand on me demande de faire quelque chose, je ne le fais pas. Et pour ça, pour eux, ça passe très très mal.
Voilà. Oui, donc en fait, on peut dire que c'est des prétextes aussi parce que tout simplement ils t'aimaient pas et que tu aurais trop de fil à retordre.
Je suis CGT en plus et mon collègue qui est mis à pied aussi est CGT aussi. Voilà. Et il y a plusieurs petites autres choses que tout le monde faisait, mais qu'au final, on a été sanctionnés parce qu'ils sont tombés sur nous. En fait, ils ont vu qu'on faisait ça, donc c'était un peu le prétexte.
Est-ce que ça veut dire que du coup cette stratégie de la Poste, de la répression, en fait, quelque part elle est payante parce qu'elle fatigue, comme tu le racontes très bien, et au bout d'un moment bah, on laisse tomber quoi.
Bien sûr, tout à fait, tout à fait. Moi j'étais chaud pour aller au Prud'homme, mais quand on m'a dit ça prend 2 ans, après la Poste fait dit que non, donc on y retourne pour 2 ans, et au final il y a des annexes, ça fait plus de 10 ans qu'ils y sont, parce que bah, la Poste ne veut rien lâcher, maximum. Moi je vais toucher mes indemnités de licenciement et après, ciao. C'est triste à dire, mais bon, bah c'est comme ça, malheureusement. Quoi.
Et pour autant, tu es là aujourd'hui pour ce rassemblement pour Willy. Tu penses qu'il y a encore quelque chose à gagner quand même, quelque chose à transmettre de ce combat-là syndical ?
Je suis très pessimiste. Depuis très longtemps, je suis très pessimiste. Ils veulent faire des exemples, ils veulent casser. Pourtant, c'était pour mon cas, on a bien expliqué, voilà, mais ils s'en foutent en fait. Dès le début, c'était acté. Bah, à mon avis, c'est... J'espère me tromper, hein, pour lui vraiment, j'espère me tromper, mais malheureusement, ouais, je pense que ça va être compliqué.
Merci Christophe.
Et pas de soucis, merci à toi.
Donc, quelques petits rappels avant de monter par rapport à ce qu'on vous a dit la dernière fois, à la procédure qui a été entamée. J'ai repris un petit peu mes papiers parce qu'en fait, la procédure, elle est un petit peu comme la direction en fonction du vent, elle est un petit peu changeante. Donc en fait, depuis l'entretien préalable à licenciement, la boîte a rajouté des griefs, hein, ce qui est complètement interdit, mais on sait que la loi n'est pas pour la Poste et qu'elle a bien. Enfin bon, on n'en a rien à foutre en fait de savoir si elle a le droit ou pas de le faire, elle le fait. Donc on va l'expliquer en montant. On a un compte rendu d'entretien préalable à licenciement qui ne correspond pas à ce qui a été dit, et encore une fois, ça ne les dérange pas. Juste pour y revenir quand même sur les griefs qui reprochent, juste pour les reprendre très rapidement, il y a la question du non-respect du droit à la déconnexion. On avait bien rigolé ensemble la dernière fois quand on avait entendu ça, on vous avait fait un petit débrief après. On nous reproche d'envoyer trop de mails à la direction, de les envoyer le soir, de les envoyer quand ils sont en congé. Et eux, les pauvres, comme ils ouvrent leur boîte mail tout le temps, on les harcèle en quelque sorte. Et en fait, on n'arrête pas de leur poser des questions et de leur dire qu'au boulot, ça va mal. Et ça, ils ne le supportent pas, ils le vivent très très mal. Et donc, on ne respecte pas leur droit à la déconnexion. Le non-respect des consignes de sécurité, c'est pour la Poste, en fait, l'obligation pour les représentants syndicaux, quand ils vont sur des sites, de prévenir la direction qu'ils vont voir les collègues. N'importe quoi. Complètement dans un délire total. C'est de faire comme un électricien ou un plombier qui viendrait réparer un truc dans un local, ben prévenir que tu viens, signer registre de sécurité, etc., etc. On est des postiers et des postières, ça vous emmerde, c'est quand même le cas. Le refus d'appliquer les consignes des directeurs d'établissement. Alors c'est quoi la consigne ? Ben c'est d'arrêter de faire des prises de parole. C'est pas de faire son taf ou quoi, machin, c'est arrêter de vous adresser aux collègues. Pas plus loin qu'ici, dans les sous-sols là, de la direction, où on travaille à Mériadec, il y a un certain nombre de collègues de Mériadec qui sont là, on travaille à la cave avec les fuites, toute la merde qui coule d'en haut, on se la prend dans la gueule, et quand on vient et qu'on ouvre notre gueule pour dire ça ne va pas, on a des mauvaises conditions de travail, on est mal payé, on est maltraité, on est mal considéré, là le directeur vient, parce qu'il vient rarement, mais il vient quand on est là, il dit « Monsieur Hélène, arrêtez de prendre la parole, non je vais quand même continuer, hop, sanction disciplinaire, menace de licenciement, c'est ça la réalité ». La réalité, c'est que quand on ouvre sa gueule à la Poste, on est menacé de licenciement. Ensuite, ils font des procédures de mise à pied, comme ça a été le cas pour Vincent, comme c'est le cas pour Olivier, comme c'est le cas de plein d'autres camarades, y compris de la CGT, de Franck qui est là, de Christophe qui est là aussi, qui a été licencié de manière complètement injuste. Tout ça, c'est l'engagement syndical qui en est la cause. Pour autant, on ne se laisse pas faire. Pour autant, on relève la tête. Pour autant, il est hors de question de s'asseoir sur nos droits et de s'asseoir sur ce qu'on est nous, à savoir des militants syndicaux. Et on l'a chevillé au corps et on le restera, que vous le vouliez ou non. Le dernier grief qui nous reproche, c'est justement ça en fait, c'est d'être des syndicalistes. Qu'est-ce qu'on nous reproche ? Attitude et écrit inapproprié et irrespectueux. La dernière fois, on leur a expliqué, mais c'est pas irrespectueux en fait de dire à un directeur d'établissement de faire preuve d'ouverture d'esprit. Je le dis, c'est ce qu'ils nous reprochent là dans la procédure. Ils me reprochent pour le syndicat d'avoir demandé à une directrice de faire preuve d'ouverture d'esprit. Il me reproche dans un mail envoyé à la direction, je vais vous le citer parce que c'est quand même assez drôle, pour citer Euripide, la supériorité est toujours odieuse. Alors nous ne saurions que trop vous suggérer de traiter les collègues avec considération. Ça, pour eux, c'est un motif de sanction de citer Euripide. Je pense qu'un peu de culture leur ferait pas de mal. Et c'est avec ça aussi où ils ont du mal. Quand on leur répond, quand on a de la répartie, quand on leur explique nos conditions de travail, qu'on ose leur expliquer des trucs. Alors là, c'est plus possible. Hein. Restez à votre place, bande de gueux. C'est comme ça, en fait, dans leur tête. Le dernier truc aussi que j'ai à vous dire par rapport à la procédure disciplinaire. Ils ont mis dans le dossier, de manière à l'aise, décontractée, des rapports d'activité qui décrivent l'heure à laquelle on arrive sur les sites,
qui on voit, ce qu'on dit, combien de temps, combien il y a de grévistes, comment ils ont cassé la grève. On a mis en ligne ces documents, on sait qu'en fait c'est en permanence. Sauf qu'en fait ils sont tellement dans un climat de décontraction, et il faut dire que l'ambiance générale, y compris en dehors de la poste, les incite bien à être très détendus. Ils sont tellement décontractés que les rapports qu'ils font sur nous, qui sont complètement illégaux, hein, atteinte aux libertés syndicales, atteinte aux lois sur la protection des données, ils constituent des dossiers sur des syndicalistes, on est quand même dans du bon patron du 19e siècle, ils sont tellement détendus qu'on le met dans le dossier, à l'aise. Et donc on a un directeur qui dit, voilà, alors monsieur Perret, donc mon camarade de la CGT, représentant départemental lui aussi, monsieur Delem, sont arrivés à 7h25. À 7h30, ils ont pris la parole en bout de travée. Ils ont dit si, ils ont dit ça, ils ont parlé des intérimaires, ils ont parlé des conditions de travail, ils ont parlé des motifs d'embauche, ils ont parlé de la CDIsation qu'on demande des intérimaires. En fait, ils lisent toutes nos revendications. Et à chaque fois qu'on va parler avec des collègues, comme ça, ils vont lister avec qui on parle, combien de temps on parle, etc. Et à la fin, ils précisent, sur Pessac, à 7h, nous avons 10 grévistes, les collègues de Pessac sont là, plan de secours activé sur les tournées affectées, balles, donc boîte aux lettres, prestations 100% réalisées, on fait au mieux pour la presse et les objets, nous avons maintenu le renfort pour les tournées présentes. Ils t'expliquent tranquille qu'ils cassent la grève. Mais ils écrivent et ils te donnent le document. Tiens, tiens, c'est cadeau. C'est parce qu'ils sont trop décontractés. Trop, beaucoup trop. Donc pour conclure, nous, ce qu'on appelle à faire, c'est faire en sorte qu'ils ne soient pas du tout décontractés. À la poste, dans les autres boîtes, l'ensemble du patronat, l'ensemble du monde du travail doit se confronter parce qu'on ne continuera pas dans les CSE à faire ce qu'ils veulent qu'on fasse, à savoir dialogue social, etc. Olivier en a parlé. On est là pour les confronter, on continuera de les confronter. On invite tous les camarades à le faire et on sera présent aussi dans les autres rassemblements pour les autres boîtes et les collègues postiers et postières qui sont là. On ne lâche pas l'affaire, on ne se laissera pas écraser, on ne se laisse pas intimider. On a le droit de faire ce qu'on fait et encore une fois, on le répète, notre combat est juste, donc on continuera jusqu'au bout.
Salut Willy, un autre enjeu, là c'est le moment où a lieu cette répression, c'est-à-dire juste au début de la campagne des élections professionnelles, donc passage CHSCT, CT à CSE à la poste. Peut-être c'est quoi pour vous l'enjeu à SUPTT de ces élections et du coup comment vous les abordez là?
L'enjeu c'est de ne pas se faire absorber par un syndicalisme de salon où tu vas aller de commission en commission. En gros, il y a un camarade qu'on a parlé tout à l'heure où ils vont essayer de t'absorber en fait pour faire de toi un syndicaliste de réunion, en fait, de réunionnite. Donc nous, l'enjeu, c'est de rester le plus proche des collègues, rester dans les revendications de base, les augmentations de salaire, les embauches de collègues, de meilleures conditions de travail, de ne pas s'embarquer sur des délires patronaux, en fait, tout simplement. Et voilà, de continuer à porter notre forme de syndicalisme par la lutte, par la grève, par les revendications, par la confrontation.
Et du coup, c'est quoi l'intérêt d'être élu pour ça? Qu'est-ce que toi tu dis aux collègues? Est-ce que c'est important d'aller voter, de voter pour SUPTT? Ou est-ce qu'en fait c'est un peu dérisoire par rapport à l'enjeu de ces élections et du syndicalisme de manière générale?
Moi je dis, en tant que militant Sud, je dis voter pour un syndicat de lutte. C'est-à-dire, j'appelle forcément à voter pour Sud, j'appelle à voter pour Sud parce que je suis candidat, mais votez pour un syndicat de lutte quoi qu'il arrive. Si vous n'êtes pas d'accord avec Sud, il y a un autre syndicat de lutte qui s'appelle la CGT. Et donc voilà, l'important c'est qu'on soit le plus en lutte dans les services et c'est pas en votant pour des syndicats qui vont être justement dans la réunionnite qu'on va y arriver. Donc nous on est sur une campagne intersyndicale en fait avec la CGT Sud. Même si on a des listes séparées, on se bat pour la même chose à la fin qui est d'avoir un maximum de capacité aussi de mettre la pression à la boîte. Les élections CSE, c'est pas juste avoir des gens qui vont faire des réunions, c'est la représentativité syndicale. C'est la possibilité d'avoir pour les syndicats de signer des accords ou de ne pas les signer. Donc de dire à la direction de la poste, on est en mesure de vous bloquer des choses, on est en mesure de faire un rapport de force avec vous. Et pas juste d'être là pour occuper des sièges et vous faire plaisir. Quoi.
Ces moments-là de répression, les rassemblements que vous organisez pour faire face à la répression, comment ils sont perçus par les camarades, les collègues, par les collègues plutôt que les camarades?
Disons que malheureusement pour nous c'est assez régulier ce type de rassemblement, mais on pense que c'est important et les collègues quand même répondent présents, les collègues, les camarades, il y a plein de collègues de plein de sites qui sont là et s'ils répondent présents c'est aussi parce qu'ils savent qu'en attaquant des représentants syndicaux, l'idée c'est qu'ils attaquent notre forme de syndicalisme et eux ils adhèrent à notre forme de syndicalisme. Les collègues ils adhèrent au fait qu'effectivement on n'est pas des collaborateurs avec le patron, il y a le patron et il y a nous en fait, il y a deux camps et on s'oppose et ils le savent, ils en sont conscients et s'ils sont là aujourd'hui c'est justement parce qu'ils sont conscients de ça.
En un mot, en quelques mots, c'est quoi les principales préoccupations pour les collègues aujourd'hui et là où les conditions de travail sont menacées, les conditions salariales aussi peut-être?
Les principales revendications, c'est augmentation des salaires. T'es postier avec plus de 15 ans d'ancienneté, tu touches moins de 1 500 euros par mois. C'est l'embauche de tous les collègues précaires. c'est un collègue en CDI en face de chaque position de travail, et c'est l'arrêt du saccage du service public, c'est-à-dire l'arrêt des fermetures de bureaux de poste, l'arrêt des suppressions de tournées, l'arrêt de la dégradation de la livraison du courrier, du colis, de la sous-traitance, etc. C'est ça nos revendications, c'est de maintenir un service public de qualité et que nous, on en soit les acteurs et qu'on soit respectés dans ce qu'on fait, quoi.
Voilà, c'était pour terminer Willy Delhem juste avant son entrée au conseil de discipline ce mardi devant le siège de la Poste. On vous dira bien sûr quand on en saura plus sur l'avis de la commission de discipline et sur la décision de la direction. On termine ce plat de résistance en vous donnant le programme des émissions de La Clé des Ondes aujourd'hui. À 19h, il y aura Climat de lutte qui parlera transport fluvial, transport ferroviaire, LGV inutile et méga canal écocide avec la participation du collectif Méga Canal Non Merci. On en saura plus sur ce dont il s'agit. Et puis en bonus, une interview de Valérie Murat suite à sa première victoire en justice. Valérie Murat, militante contre les pesticides, elle a obtenu le droit de faire appel dans le procès Bayon que lui a intenté le CIVB, l'interprofession des vins de Bordeaux, il y a déjà plusieurs années. À 20h, ce sera Yassas, une émission avec de la musique électronique. On entend ça derrière moi. Musique électronique actuelle et reprise de classiques folkloriques. Tout de suite, on écoute une chanson de Panpan, musicien et illustrateur, auteur de bande dessinée, qui est un peu le chef de file de la musique électro en Grèce. Rendez-vous à 20h pour en savoir plus. Et à 21h, une nouvelle émission sur la grille de la Clé des Ondes. Ça s'appelle Gentiane. Et vous pourrez y entendre de la musique trad.